Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceau, avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafon. Cette semaine, nous avons 10 nouveautés sur les écrans Manceau, le Torrent, le Lycéen, Enzo le Croco, Fumé fait tousser, Cow, mais Rendez-vous avec Léo, She Will, Annie Colère, Days et Violent Night. Eh bien, on va commencer tout de suite par un titre que l'on entend sur le début du générique du film Fumé fait tousser. C'est un titre absolument de circonstance, puisque c'est Gainsbourg, Dieu fumeur de Havane, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Et bien entendu, c'est avec aussi Catherine Deneuve.
Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ces nuages gris. Je sais qu'il fait même la nuit, comme moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues. Parfois venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu.
Dieu est un fumeur de Havane. C'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis. Je le sais, ma chérie.
Gitane, sans elle, tu es malheureux. Au clair de la lune, ouvre les yeux pour l'amour de Dieu.
Tu es un fumeur de Havane, tout près de toi, loin de lui. J'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Et la dernière, je veux la voir briller au fond de mes yeux.
Toute ma vie, comprends-moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Et la dernière, je veux la voir briller au fond de mes yeux. Aime-moi, nom de Dieu.
Serge Gainsbourg, Dieu est un fumeur de Havane. Cette chanson, on l'entend dans le film Fumé fait tousser, enfin au générique de début du film. Et elle est extraite d'ailleurs d'un film de Claude Berry, je crois bien que ça s'appelait Je vous aime, où on voyait Serge Gainsbourg et Catherine Deneuve l'a chanté.
La voilà. Chanson est de 1980, je crois.
C'est bien possible, oui. Effectivement. On commence notre semaine cinématographique avec Le Torrent. Le Torrent, c'est un film de Anne Leny. Anne Leny, actrice, réalisatrice et scénariste. D'ailleurs, actrice dans le film, elle joue le rôle du commissaire de police, capitaine de police ou de gendarmerie, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est la gendarmerie. Mais on l'a également vu dans des films comme Papa et Maman, Papa ou Maman 1 et 2. On l'a vu dans Stillwater, mais oui, absolument. Elle jouait, il me semble, là aussi un commissaire de police ou un avocat, plutôt un avocat. Dans Tendre et Saignant, dans plein de films, mais elle est aussi réalisatrice. Et en 2007, elle réalise Ce qui reste avec Vincent Lindon et Emmanuel DeVos. En 2009, Les Invités de mon père avec Fabrice Luchini et Karine Viard. 2011, Cornouailles avec Vanessa Paradis et Samuel Le Bihan. 2013, On a failli être amis avec Karine Viard et Emmanuel DeVos. Et 2018, La monnaie de leur pièce avec Baptiste Le Caplain et Julia Piaton, je crois. Le film Torrent est proposé par le Méga CGR et par le Pathé Quinconce. La durée 1h42, lorsqu'Alexandre découvre que sa jeune épouse Juliette le trompe. Une violente dispute éclate. Juliette s'enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps. La gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit d'inondation. Alexandre, qui craint d'être accusé, persuade Lison, sa fille, d'un premier lit, 18 ans, de le couvrir. Il s'enfonce de plus en plus dans le mensonge et Patrick commence à le soupçonner. Piégé entre les deux hommes, Lison pourrait tout faire basculer. C'est le début d'un terrible engrenage. Eh bien, la presse n'est guère enthousiaste, à l'exception de Stéphanie Belpech dans le Journal du Dimanche. Anne Leny signe un thriller captivant à partir d'un drame familial dans lequel un père demande à sa fille de le couvrir et se retrouve pris dans un engrenage de mensonges. La rédaction du Figaro, l'actrice-réalisatrice Anne Leny filme l'engrenage de mensonges comme un thriller hitchcockien à la spirale toxique. André Dussollier en père éploré en quête de son côté. Mais le suspense est trop mince et le drame s'évente assez vite, malgré la présence lumineuse de la jeune capucine Valmarie qui seule arrive à tirer son épingle du jeu. Corinne Renaud-Nativelle dans La Croix. Le scénario affiche certaines faiblesses et laisse de côté nombre de questions. Précipiter sa fin élue de platement, le thriller menait bon train jusque-là. Le torrent s'est néanmoins campé un peu en peu de scènes, la nature de la relation père-fille au cœur du récit. Je suis assez d'accord avec cette critique. Motenda dans Les Irréductibles. Bien plus qu'un torrent, le film a l'air d'une petite flaque morte. Même le décès d'une femme, simple prétexte scénaristique, jamais traité émotionnellement par le film, ne parvient à l'agiter. Thierry Chasse dans West France, l'issue et les rebondissements paraissent scolairement attendus. Et dans Première, Thierry Chasse, toujours Anne Leny, cessée au thriller, sans jamais parvenir à faire naître le suspense qu'elle ambitionne de distiller. La faute à un scénario trop cousu de fil blanc et à des personnages manquant de nuances et de troubles. Eh bien, moi, j'ai vu Le Torrent, je suis un peu moins sévère que ce qu'on vient d'entendre, parce que, bon, après tout, c'est pas un film si catastrophique que ça. Hein. C'est l'histoire d'Alexandre, c'est le patron d'une PME de construction dans les Vosges, construction en bois, et on est dans les Vosges. Il est remarié, il a une grande adolescente d'un premier mariage, un petit garçon du second, et il apprend fortuitement que sa jeune épouse le trompe. Une dispute éclate et celle-ci s'enfuit dans la nuit. Il la rattrape, mais elle chute accidentellement et décède. Tout accable Alexandre, qui craint d'être soupçonné du meurtre. Il avoue tout alors à sa fille et lui demande de faire un mensonge pour lui, un mensonge qui le disculperait sans doute de tout soupçon et permettrait d'accréditer la thèse d'un accident aux yeux des autorités, mais aussi aux yeux de ses beaux-parents. C'est le point de départ d'un engrenage et d'une intrigue qui rappelle certains faits divers, oui. Si vous êtes un familier de Faites entrer l'accusé, le genre, ou d'émissions de télé de ce genre-là, ça rappelle certains faits divers. C'est un film qui parle de conflits de loyauté au sein d'une famille et de trahison de confiance, avec cette histoire d'un homme qui se débat et s'enferre pour montrer qu'il n'est pour rien dans la mort de son épouse. C'est un scénario tout à fait correct, à l'intrigue bien ficelée, d'excellents acteurs, résultat un film plutôt prenant, même si la fin, là, je rejoins la critique qui le faisait remarquer, la fin m'a paru un petit peu bâclée. Mais c'est suffisant quand même pour tenir le spectateur en haleine avec cette histoire d'une relation intense, père-fille. C'est un film, ma foi, de qualité France, comme on dit, où Anne Leny sait créer une atmosphère des relations entre les personnages accablés par le deuil et un homme innocent qui essaie de se sortir avec maladresse d'une situation inextricable. C'est un film qui se laisse voir, mais auquel il manque toutefois quelque chose pour en faire vraiment un très bon thriller. Donc, un avis mitigé plus, on va dire, pour ce torrent que l'on peut voir au Pathé Quinconce et au Méga CGR. Le lycéen, en revanche, là, c'est le film qu'on ne peut le voir qu'au cinéaste. Et c'est un film qui a droit à deux séances par jour. C'est un film de Christophe Honoré, c'est un réalisateur, scénariste, acteur. Acteur, d'ailleurs, dans le film, il joue le rôle du père. Hein. C'est un réalisateur qui a commencé par le court-métrage. Et puis, en 2001, 17 fois, Cécile Cassard, avec Béatrice Dalle et Romain Duris. 2003, Ma mère, avec Isabelle Huppert, Louis Garrel et Made Cohn. 2006, Dans Paris, avec Louis Garrel et Romain Duris. 2007, Les chansons d'amour, avec Louis Garrel et Ludivine Sagnier. 2008, La belle personne, avec Louis Garrel et Léa Seydoux. 2009, Non, ma fille, tu n'iras pas danser, avec Chiara Mastroianni et Mademoiselle Foyce. Comment s'appelle son prénom Bon, peu importe.
Marina, non?
Marina Foyce, oui. Voilà, je ne sais pas pourquoi je me trouve là comme ça. 2011, Homme au bain, avec Chiara Mastroianni. 2011, également, Les Bien-Aimés, avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Ludivine Sagnier. 2014, Métamorphose. 2016, Les Malheurs de Sophie, un film pour enfants, hein, avec Muriel Robin, Anaïs de Moustier, la comtesse de Ségur. 2018, Plaire, Aimer et Courir Vite, avec Vincent Lacoste et Pierre Deladonchamp. 2019, Chambre 212, avec Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay et Vincent Lacoste. Et 2001, Guermantes, avec Anne Kessler et Éric Genovese, qui avait été proposé, avant d'être proposé au cinéma, sur la 5, France 5. Voilà, donc un cinéaste prolifique et assez fidèle à ses acteurs. On voit beaucoup, très souvent, Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste. On voit aussi Louis Garrel, voilà. Le lycéen, 2h02, Lucas a 17 ans, quand soudain, son adolescence vole un éclat. Avec l'aide de son frère, monté à Paris, et de sa mère, avec qui il vit désormais, il va devoir lutter pour apprendre à espérer et aimer de nouveau. Alors, le synopsis dit qu'il vole en éclat, mais il vole en éclat parce que son père décède dans un accident. Ce n'est pas un secret qui arrive à la fin du film. Ça, hein. Je ne sais pas pourquoi ils ne le disent pas dans le synopsis. Bref, cinématiseur Renan Crowe, histoire d'un deuil, récit d'une émancipation. Le lycéen saisit avec grâce la tristesse d'un ado et son chemin cabossé vers la lumière. Jean-Marc Lalanne, Les Inrecuptibles. Objet de jouissance esthétique, carrément, le film l'est avec un éclat incomparable. C'est un feu d'artifice vivace et virtuose, où toutes les possibilités expressives du cinéma atteignent un point d'incandescence. Hein. On peut dire qu'il a aimé Jean-Marc Lalanne. Mathieu-Victor Pujebet, dans Écran large, en évoluant constamment quelque part entre le style et l'épure, Christophe Honoré livre avec le lycéen un film bouleversant sur le deuil et la tentation de l'abîme. Si le cinéaste ne tient peut-être pas toujours ce complexe équilibre, il le fait malgré tout avec une touchante sincérité. Jérôme Garcia-Nolops, retenez son nom, Paul Kircher, à la fois fragile et canaille, indomptable et attendrissant, candide et arrogant, il déchire l'écran que Christophe Honoré raccommode avec une infinie délicatesse. Le Point, réunissant Vincent Lacoste, parfait en grand frère aimant mais brutal, Juliette Binoche sublime dans sa douleur de veuve et le jeune Paul Kircher, très belle révélation, le lycéen fait monter chez le spectateur de puissants frissons d'émotion. Gilles Kerdreux dans Ouest France parle d'un portrait de la jeunesse pleine de sensibilité. Louis Guichard dans Télérama, deuil brutal, passion impossible. Le cinéaste revisite au présent et avec panache son adolescence. Jean-Claude Raspinger dans La Croix, ce film d'abandon à tous les sens du terme, dans une perpétuelle atmosphère de froide saison, aux scènes inachevées, trop longs par moments, agaçants de complaisance et d'excès, profonds à d'autres, drôles aussi, côtoie le sublime sans l'atteindre vraiment. Il est surtout illuminé par une révélation stupéfiante, un nouveau visage lumineux dans le cinéma français, Paul Kircher. Étienne Sorin, Le Figaro, Honoré ne peut s'empêcher quelques affecteries post-Nouvelle Vague, telles la voix off et les confessions ou réflexions filmées de Lucas. Mais cette coquetterie auteuriste ne gâche pas la grâce mélancolique que déploie la dernière partie du film. Adrien Gombeau, Les Échos, en racontant un épisode dramatique de sa jeunesse, Christophe Honoré livre un film souvent touchant, mais jamais surprenant. Le lycéen fige une histoire très personnelle et bouleversante dans une forme trop attendue. Le lycéen, film de Christophe Honoré, 2h02, proposé par les cinéastes. Donc, deux séances par jour. Lucas, jeune lycéen de 17 ans, insouciant comme on l'est à son âge, voit soudain son monde s'anéantir au décès de son père dans un accident de la route. Tout s'écroule pour lui et il va devoir faire son deuil, entouré de sa mère et de son grand frère. Alors, pour se changer les idées, si on peut dire, après l'enterrement de son père, eh bien, le frère, le grand frère, lui propose de l'amener avec lui passer une semaine chez lui à Paris. Donc, c'est un film en partie autobiographique, semble-t-il, puisque Christophe Honoré a vécu la mort de son père quand il était adolescent. Sa première partie de ce film, moi je vois trois parties dans ce film, hein, sa première partie de loin la meilleure, c'est celle du deuil immédiat, du chagrin intense et absolu qui vous ravage totalement, et de ses conséquences pour toute la famille, la mère, le grand frère, les proches, voilà. L'immense chagrin évidemment de tous, mais aussi la difficulté à gérer la situation. C'est filmé de façon très naturaliste, caméra à l'épaule, très près des personnages. Mais ensuite, avec le séjour à Paris, moi j'ai petit à petit sombré dans un ennui de plus en plus profond, avec cette façon pour Lucas de tenter de s'oublier dans les relations homosexuelles. Certes, chacun appréhende le deuil de la façon qu'il veut. Hein, c'est quelque chose de très personnel, l'appréhension d'un deuil. Mais là, elle a un petit peu de mal avec cette façon qu'a Lucas d'appréhender ce deuil en se livrant à une sorte de débauche de relation homosexuelle. C'est ensuite la troisième partie, celle où Lucas plonge vraiment dans le désarroi et la dépression, on pourrait dire le contre-coup, arrive à ce moment-là. Donc c'est filmé avec certain nombre de parties prises, de mise en scène, voix off, adresse au spectateur face caméra, caméra donc au plus près des personnages. C'est un film donc très personnel pour Christophe Honoré, dans une veine intimiste qui a plu à la critique, vous l'avez compris, hein, Christophe Honoré incontestablement c'est quelqu'un qui a la carte auprès de la critique comme on dit. Hein. Le spectateur lambda que je suis a fini quand même par s'ennuyer après un début quand même prometteur, véritablement touchant. Quand le film devient, moi j'ai commencé à m'ennuyer, quand le film devient un énième récit d'apprentissage, bon, on peut d'ailleurs s'étonner un petit peu de la rapidité avec laquelle Lucas revient à la lumière, mais bon, c'est peut-être comme ça que ça se passe pour certains. Le film permet quand même de découvrir un jeune acteur prometteur qui fait preuve d'une grande palette d'émotions. Moi j'ai trouvé ça très inégal, je suis beaucoup moins enthousiaste que la majorité de la critique professionnelle. Enzo le Croco. Enzo le Croco, c'est au Colisée, c'est au Méga CGR, c'est au Pâté Quinconce. Les vacances de Noël approchent et donc c'est un film pour les enfants, plutôt. 1h47, les réalisateurs sont Will Speck et Josh Gordon. Will Speck et Josh Gordon, ce sont des réalisateurs qui ont déjà fait leurs preuves. Par exemple, en 2007, ils avaient fait un film qui était hilarant, s'appelait Les Rois du Patin avec Will Ferrell. 2010, Une famille très moderne avec Jennifer Aniston et Jason Bateman. 2016, Joyeux Bordel, avec les mêmes, Jennifer Aniston, Jason Bateman. 2017, The Travelers, inédit. Voilà pour la filmographie de Will Speck et Josh Gordon. Le film Enzo le Croco, c'est un mélange de prise de vue réelle et d'animation, parce que le croco, c'est pas un vrai croco, c'est un croco d'animation. Et ça dure 1h47, quand la famille Prime déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Tout cela change quand il découvre Enzo, un crocodile chanteur qui aime les bains et le caviar et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais lorsque l'existence de l'insolite crocodile est menacée par leur diabolique voisin, M. Krumps, les Primes s'allient avec Hector Valenti, le propriétaire d'Enzo, afin de prouver au monde qu'une famille peut toujours s'improviser et qu'il n'y a aucun mal à intégrer un grand reptile mélomane doté d'une personnalité haute en couleur et d'une incroyable voix. On voit qu'on est dans la fantaisie, hein, la terre. Ben, la critique n'a pas trop apprécié. Ceux qui sont allés le voir, parce qu'ils ne sont pas très nombreux, c'est Stéphanie Belpech, journal du dimanche. Le conte initiatique, accessible dès 6 ans, repose sur un scénario cousu de fil blanc et pétri de bons sentiments. Mais l'émotion est au rendez-vous, comme la dénonciation de l'exploitation animale. Télérama Marie Sauvion, après un démarrage en fanfare, en effet, le scénario rame et les chansons lassent. Bref, on pourrait bouder, mais, cet Enzo empathique, accro au bain chaud et au caviar, possède un petit charme fantaisiste qui amusera les enfants, sans parler de la prestation survoltée de Javier Bardem en artiste musical, éternellement sur le retour. Bon, je ne suis évidemment pas allé voir Enzo le Croco, mais je ne vous empêche pas d'y aller et d'amener toute votre progéniture. Voilà, allez, hop, dans le lycée, on entend pas mal de chansons, et bien on va vous en proposer une, celle qu'on entend sur le générique de fin. Vous allez voir, si vous êtes né dans les années 80, vous connaissez... Enfin, dans les années 80, si vous étiez jeune dans les années 80, parce que né au berceau, on n'écoute pas ça. Robert Palmer and Johnny and Mary sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Tout de suite, vous connaissez ça.
says he changes his mind more than a woman. But she made a bet, even when the chance was slim.
Johnny and Mary, Robert Palmer, une chanson et un chanteur qui a été très à la mode à une époque, et puis je n'ai plus en entendre.
Issu du trio Emerson, Lake and Palmer.
Je me posais la question.
Oui, tout à fait.
D'accord, ok, absolument. Bien, eh bien, Fumer fait tousser, c'est un conseil que je vous donne, mais c'est aussi le titre de Quentin Dupieux. Le film Quentin Dupieux est proposé au cinéaste avec 2 séances par jour et au pâté quinconce. Quentin Dupieux, réalisateur, scénariste, compositeur. Compositeur, c'est le fameux Monsieur Oiseau. C'est lui. Et puis, il a aussi à son actif quelques longs-métrages, toujours très courts. Steak, le premier, avec Éric Judor et Ramzi Bedia en 2007. 2010, Rubber, avec Roxane Mesquida. Rubber, c'est un pneu qui est tueur en série. Donc, c'est un univers un peu déjanté. Hein. 2012, Wrong, avec Éric Judor. 2013, Wrong Cops, avec Éric Judor également. 2014, Réalité, avec Alain Chabat, Jonathan Lambert et Elodie Bouchez. 2018, Au Poste, avec Benoît Poulvorde, Grégoire Ludig. 2019, Le Dain, avec Jean Dujardin et Adèle Haenel. 2021, Mandibule, avec Grégoire Ludig, David Marsay et Adèle Exarchopoulos. Et 2022, c'est tout récent, Incroyable mais vrai, avec Chabat, Léa Drucker et Benoît Magimel. Fumer fait tousser, ça dure 1h20. Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, 5 justiciers qu'on appelle les Tabac Force, tabac comme le tabac, hein, reçoivent l'ordre de partir en retraite pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. Le séjour se déroule à merveille jusqu'à ce que Lézardin, empereur du mal, décide d'anéantir la planète Terre. Voilà. Alors, 20 minutes, Carole Nivier, on s'amuse beaucoup avec ses potes délirants qui font fi de tout sens du ridicule et de la logique pour offrir un divertissement généreux. Le meilleur film de Quentin Dupieux, peut-être ou pas, mais sûrement l'un des plus marrants. Fumer fait tousser offre un grand moment de rigolade. Renan Crowe, cinématiseur, des super-héros qui s'engueulent, des vacances entre amis qui dégénèrent, un rat libidineux, un robot suicidaire. Il y a tout ça et plus encore dans Fumer fait tousser. Faut n'importe quoi hilarant et un vrai film inquiet du grand Dupieux. C'est ce que pense aussi la rédaction du Figaro, qui déclare que le film est foutraque, potache et drôle. Fabrice Leclerc dans Paris Match, objet cinématographique une nouvelle fois non identifié, quelque part entre les Marx Brothers, la série Z ou Mel Brooks. Barbara Théâtre, Journal du Dimanche, impossible de ne pas rire aux répliques loufoques de ces sauveurs de la planète, moulés dans des costumes ridicules et aux égos mal placés, et de ne pas frissonner devant les petites histoires horrifiques, voire un peu gore, qu'ils se racontent pour se faire peur. Judith Beauvallet, écran large, un casting qui s'éclate dans cette comédie qui amuse par ses idées aussi foisonnantes qu'absurdes, mais qui oublie son histoire en cours de route et son spectateur avec. Olivier de Bruyne, Les Échos, le prolifique Quentin Dupieux bâtit une nouvelle comédie sans queue ni tête où, fidèle à lui-même, il aligne des sketchs absurdes, une farce régressive réservée aux fans. Gilles Kerdreux dans West France, l'humour potache se répète et ce n'est plus assez ridicule pour maintenir l'attention. Fumer fait tousser, proposé par le cinéaste ou les cinéastes, deux séances par jour et le pâté quinconce. Et donc, Quentin Dupieux nous propose une nouvelle fois une de ces comédies bricolées à l'humour nonsensique dont il a le secret. Ici, on est entre gore pour rire et absurde. Le point de départ de son film, ce sont les aventures de la Tabac Force, une bande de cinq justiciers au look très kitsch, un style années 80, genre Bioman, Power Rangers, vous voyez un petit peu ça. Ils sont chargés de lutter contre les monstres qui menacent la Terre. Et on commence ici par une tortue géante, qu'ils dézinguent en utilisant la substance nocive des cigarettes pour les combattre. Voilà. Alors, ils sont ensuite envoyés dans une sorte de retraite pour améliorer la cohésion. Et là, le soir, à la veillée, ils se racontent, entre guillemets, des histoires qui font peur. Et c'est l'occasion pour Dupieux de vous proposer quelques sketchs avec un vague fil rouge. Voilà. Donc, j'ai trouvé cela certes amusant, mais cela m'a simplement arraché quelques sourires plutôt que des rires francs, alors que plusieurs de mes voisins de salle ont cessé de rire aux éclats. C'est peut-être le signe que je deviens de plus en plus difficile. C'est possible, je veux bien l'admettre. Tel quel, le film vaut surtout pour ses acteurs qui jouent les situations en très premier degré et qui ont bien dû s'amuser à interpréter ces justiciers en costume lycra, ringard et poltron, d'où le décalage humoristique, mais je suis loin d'avoir trouvé cela hilarant. Disons que c'est du grand n'importe quoi, farcesque, foutraque, loufoque, heureusement court. Une fois de plus, les critiques me paraissent quand même dans l'ensemble très indulgents, surtout quand ils comparent ça à Mel Brooks ou Marx Brothers, parce que certes c'est drôle, mais quand même pas de quoi s'esbaudir tant que ça. Reconnaissons quand même qu'Antoine Dupieux a un style, un ton bien à lui, mais bon, c'est quand même pas non plus la comédie de l'année.
Non, pas du tout, moi ça m'a pas fait rire non plus d'ailleurs. Alors si fumer fait tousser, enfin selon Quentin Dupieux, parce que ça reste à prouver quand même, regarder un film peut parfois donner des hauts de cœur. Certes, l'affiche est très alléchante, je vous l'ai cité, enfin peut-être pas tous, mais Gilles Lelouch, Vincent Lacoste, Benoît Poulvorde, Alain Chabat, et côté féminin, Anaïs de Moustier, Adèle Exarchopoulos ou Laïa Amamra, des actrices que j'adore toutes les trois et qui sont rarement ensemble dans un même film, qui m'ont amené à voir ce long métrage. Enfin, pas très long, à peine 1h20, c'est vrai. Mais voilà, ce film est aussi bizarre qu'étrange et aussi glauque que parfois gore, ce qui explique ma réflexion du début. Je ne suis pas fan des films gore, mais je me suis accroché aux excellents acteurs et actrices que j'ai cités. Un casting 5 étoiles, nous dit Allociné, mais certainement le film le plus fou du Festival de Cannes, dans lequel il a été présenté hors compétition. Alors allez-y, ne serait-ce que pour la distribution hors pair.
T'as oublié Blanche Gardin.
Oui, j'ai dit, la liste n'est pas exhaustive.
Non, absolument, oui. Donc, Fumer fait tousser, cinéaste deux séances par jour et Pâté quinconce. Cow, c'est un film documentaire d'Andrea Arnold. Andrea Arnold, réalisatrice, scénariste, dialoguiste britannique, née en 61. Elle a à son actif de nombreux courts-métrages. En 2006, son premier long, Red Road. 2009, Fish Tank, avec Michael Fassbender. 2011, Les Hauts de Hurlevent, l'adaptation du roman de Charlotte Brontë. 2016, American Honey, avec Shia LaBeouf. Et puis, de nombreux épisodes de séries télé. Cow, 1h34, nous invite à porter un autre regard sur les vaches, à nous en rapprocher, à contempler leur beauté, mais aussi la réalité de leur vie. Sans farce, ceci est l'histoire d'une réalité, celle d'une vache laitière, et un hommage à l'immense service qu'elle nous rend. Quand je regarde Luma, notre vache, c'est notre monde que je vois à travers elle, déclare Andrea Arnold. Nicolas Chalère dans l'Obs, mélo bovin, docu puissant, Cow est une pure expérience de cinéma. West France, un film majeur sur l'exploitation animale. Le Journal du Dimanche, Stéphanie Belpech. La mise en scène naturaliste ne cache rien de la cruauté tout en gratifiant le spectateur d'images d'une beauté absolue. Une expérience à la fois captivante et révoltante. Thierry Richesse en première, nulle trace de discours verbeux, le cinéma d'Andrea Arnold, en docu comme en fiction, passe par les sensations qu'elle crée, par la puissance tranquille de sa mise en scène, et le résultat en impose. Virginie Félix dans Télérama, beaucoup de noir et peu de vert dans ce tableau réaliste sans parole, d'où sourd une atmosphère de tristesse et d'ennui, le reflet dans un œil de vache de la rude condition animale. 1h34 en documentaire, j'ai beaucoup aimé les vaches, je ne suis pas allé le voir,
bon,
il n'y a quand même pas beaucoup de séances. Il y a une séance par jour, et encore, quand je dis une séance par jour, ce n'est pas tous les jours, c'est au cinéaste. Hein. Il n'y a pas de séance ni dimanche, ni lundi, ni mardi, par exemple. Donc si vous voulez voir Chaos, c'est aujourd'hui tout de suite à 13h30 ou demain à 15h15. Voilà, Chaos, cinéaste. Mes rendez-vous avec Léo, alors cette fois-ci mes rendez-vous avec Léo, c'est uniquement au... méga CGR, et on peut le regretter, uniquement en VF. Mes rendez-vous avec Léo, c'est un film de Sophie Hyde. Sophie Hyde, c'est une réalisatrice productrice australienne. Elle a réalisé en 2011 Life in Movement, un documentaire co-réalisé avec Brian Mason. Et puis ensuite, deux autres films inédits en France en 2013. 52 Tuesdays et 2019 Animals. Voilà, donc mes rendez-vous avec Léo. Ça dure 1h37, c'est uniquement Omega CGR et uniquement en VF. Nancy Stokes, enseignante à la retraite, a vécu une vie sage et sans excès. Après la mort de son mari, elle est prise d'un inavouable désir d'aventure. Elle s'offre alors les services d'un jeune escort boy, Léo Grande. Mais cette rencontre improbable pourrait leur apporter bien plus que ce qu'ils recherchaient et bouleverser le cours de leur vie. Éric Nord dans Le Figaro, une sexagénaire inhibée fait l'apprentissage de l'abandon de soi avec un escort boy dans ce film de Sophie Hyde, gonflé et subtilement maîtrisé. Stéphanie Belpech, Le Journal du Dimanche, avec le dispositif minimaliste et théâtral de l'unité de lieu et de temps, on regarde avec émotion l'héroïne lâcher prise au cours de plans séquences ultra réalistes et sans fioritures. Alors l'unité de lieu, c'est presque à 100% juste. L'unité de temps, non, pas tout à fait, parce que c'est 4 rendez-vous. Le Parisien, à 63 ans, Emma Thompson sidère tant elle n'a pas eu froid aux yeux pour camper cette sexagénaire qui a décidé de redécouvrir les frissons d'une relation charnelle. Julien Marcillon, Télé 7 jours, servi par une mise en scène à fleur d'émotions et des dialogues subtils, elle livre, elle, c'est bien entendu Emma Thompson, une composition à son image, brillante, sincère, pleine d'un panache contagieux. Véronique Coappé, Le Monde, sur le papier, l'énoncé de l'histoire laisse imaginer le pire. Ses craintes s'évanouissent dès les premières minutes où justesse et délicatesse s'imposent en un clin d'œil porté à travers le Judas d'une porte. Olivia Cooper Adjian dans Cahiers du cinéma, si cette œuvre sacrément nunuche mérite qu'on s'y attarde un instant, c'est parce que, malgré tous ses artifices, une émotion finit par émaner de la coïncidence entre la mise à nu très progressive du personnage et celle de l'actrice. Thomas Borès dans Première, le scénario enfonce beaucoup de portes ouvertes, poids des conventions sociales, soucis du candidat-on. Résultat, à partir d'une situation singulière, Sophie Hyde trouve le moyen de signer un film d'une sagesse rédhibitoire. Eh bien, moi, je suis allé voir mes rendez-vous avec Léo au Méga CGR, puisqu'il n'y a que là qu'on peut le voir. C'est sur un sujet hyper casse-gueule, hein, une enseignante à la retraite, veuve dans la soixantaine, qui décide de s'offrir un escort boy. Un escort boy, c'est un homme prostitué, tout simplement, pour assouvir ses fantasmes sexuels refoulés après une vie commune avec son mari, une vie commune bien morose, bien pépère sur ce plan-là. Sur ce sujet, donc, Sophie Hyde réussit à éviter tous les pièges, à commencer par le graveleux, le scabreux, pas du tout, hein, le dispositif ici est simple. Quasi théâtral, le film se déroule en 4 rendez-vous, en huis clos, dans une chambre d'hôtel ou dans le lobby, le hall d'un hôtel, entre Nancy, cette femme d'âge mûr, et donc Léo Grande, le beau garçon dont elle paie les prestations. Alors tous les thèmes qu'on attend sont abordés, hein, la motivation de l'un et de l'autre, le sexe tarifé, la gêne, voire la honte de Nancy. Et puis petit à petit, bah, ces deux personnages vont se livrer l'un à l'autre et se découvrir beaucoup plus que dans une simple rencontre sexuelle. On découvre ainsi leurs frustrations, leurs traumatismes passés, voilà. Moi je trouve que c'est remarquablement interprété. Emma Thompson est absolument remarquable, tout comme le jeune acteur qui lui donne la réplique et qui n'est pas un simple faire-valoir. Il s'appelle Daryl McCormack, et est d'ailleurs très beau. Le film ferait une remarquable pièce de théâtre, et je pense que ça mériterait une adaptation en pièce de théâtre, telle qu'elle, il fait un bon film, même un très bon film, je trouve, moi, très pudique, mais aussi très osé, sur un sujet rarement évoqué, la sexualité des jeunes du troisième âge. C'est un film qui parle du plaisir, avec tact, avec justesse, beaucoup de maîtrise, de façon audacieuse, et même avec une touche d'humour, ça et là. Donc moi, je fais partie de ceux qui ont aimé ce film, et qui l'ont même beaucoup aimé, et pas uniquement parce qu'il y a Emma Thompson, qui est une actrice que j'adore. Donc, rendez-vous avec Léo, c'est au Pâté Quinconce, hein, bien sûr, Pâté Quinconce. Méga CGR. Uniquement Méga CGR. Oui, She Will maintenant. She Will, c'est uniquement cette fois-ci au Colisée. She Will, c'est un film de Charlotte Colbert. C'est une réalisatrice britannique. C'est son premier long métrage, scénariste aussi du film et productrice. 1h35 pour ce film fantastique, proposé uniquement cette fois-ci en VO, hein, au Colisée, uniquement en VO. 3 séances par jour, il me semble bien. Véronica part en convalescence dans la campagne écossaise avec sa jeune infirmière Daisy, après avoir subi une double mastectomie. Les deux femmes développent un lien particulier alors que des forces mystérieuses amènent Véronica à s'interroger sur ses traumatismes passés et comment les venger. Alors, on est pour ou contre, il n'y a pas de juste milieu. Vincent Maloza dans Cahiers du cinéma, venu des arts plastiques, la cinéaste compose une toile baroque, traversée de visions discrètement cosmiques, à partir de cette boue noire qui semble coller au pied de ses personnages, et s'impose en un mystérieux équilibre de douceur et d'insolence parmi les plus belles promesses du cinéma fantastique contemporain. La rédaction de West France, un film de genre envoûtant et plastiquement sublime. Thierry Chaise, un voyage aussi déstabilisant que troublant. Télérama Frédéric Strauss sur le thème de l'emprise, qui réunit l'imaginaire du cinéma fantastique et la violence masculine bien réelle. Voilà un voyage qui séduit. On y croise certes d'incontournables sorcières, mais l'originalité reste vive, comme la sincérité de l'inspiration. Derrière la caméra, une artiste plasticienne est à l'œuvre. Ça, c'est ceux qui ont aimé. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas du tout aimé. C'est Jérémy Auro dans L'écran fantastique. Le film donne ainsi souvent l'impression de se reposer sur les facilités de mise en scène pour faire avancer son intrigue, finalement assez banale pour ce qui est de la dénonciation de la toxicité masculine et des rapports de domination entre réalisateurs et jeunes actrices. Et le Parisien, hélas, l'histoire paraît longue alors que le générique de fin n'intervient qu'au bout d'une heure et demie. Voilà, ben je ne suis pas allé voir She Will, j'aurais pu éventuellement, mais le foot m'en a privé. Et j'aurais peut-être dû parce que le match Tunisie-France n'était pas...
Oui, bah, c'est pour ça que j'ai vu qu'un film, moi, j'avoue aussi. Voilà, donc, j'ai regardé France-Tunisie.
She Will, c'est au Colisée et c'est uniquement en version originale. Je vous avais dit que dans le film Le Lycée, on entendait beaucoup de musique. Eh bien, on entend aussi Orchestral Manoeuvre in the Dark. Ah. Et c'est Electricity sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Electricity Orchestral Manoeuvre in the Dark. Et j'ai l'explication pourquoi on n'entend plus beaucoup parler de Robert Palmer. Bah, c'est tout simplement qu'il est décédé en 2003, à la grosse boulette, voilà. Electricity Orchestral Manoeuvre in the Dark, que l'on entend dans le film Le Lycéen. Annie Colère. Annie Colère, c'est un film proposé par le Pathé Quinconce et par les cinéastes. C'est un film de Blandine Lenoir, actrice, réalisatrice, scénariste, née en 1973. Elle a son actif de très nombreux courts-métrages. Et en 2014, un premier long, Zouzou, avec déjà Laure Calamy. Et en 2016, Aurore, avec Agnès Jaoui et Thibaut de Montalembert. Annie Colère, 2 heures de la durée du film, février 1974, parce qu'elle se retrouve enceinte accidentellement. Annie, ouvrière et mère de 2 enfants, rencontre le MLAC, Mouvement pour la Liberté de l'avortement et de la contraception, qui pratique des avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l'aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l'adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie. Ouest France, Thierry Chaise, un film choral emballant où brille une fois encore Laure Calamy. Olivier Delcroix, Le Figaro, la cinéaste Blandine Lenoir signe un troisième film joyeusement féministe qui retrace avec bienveillance le combat des femmes pour l'avortement dans la France des années 70. À quelques mois du passage de la loi Veil, Laure Calamy y est formidable. Le Parisien parle d'un film poignant, implacable et généreux. Ève Beauvallée dans Libération, un beau film solaire de Blandine Lenoir. Isabelle Magnier dans Télé 7 jours, un film choral, certes un peu didactique, mais porté par une formidable troupe d'actrices, vivifiant, éclairant et nécessaire. Fabrice Leclerc dans Paris Match, chronique forte sur une question douloureuse, récit davantage didactique. Quand il évoque les enjeux politiques, Annie Colère est un film militant utile, porté par une Laure Calamy, une nouvelle fois habitée. Céline Roudin dans La Croix, la réalisatrice est inspirée d'une thèse de 800 pages qu'une jeune chercheuse a consacrée au MLAC. Le film s'en ressent dans sa volonté pédagogique et militante de raconter l'histoire de ce mouvement aussi efficace qu'éphémère. Il se révèle plus convaincant grâce notamment à la sensibilité de son actrice dans le récit du parcours d'émancipation d'Annie. Voilà, ça s'appelle Annie Colère, c'est proposé par le Méga CGR, par les cinéastes et le Pathé Quinconce. Oui. On est en 1974, Annie, elle est ouvrière, elle est mariée, elle a déjà 2 enfants, et elle se retrouve enceinte, mais elle n'a pas du tout envie de garder ce nouvel enfant. Donc elle fait appel à l'antenne locale de sa petite ville du MLAC. Le MLAC, donc, c'est un mouvement pour la libération ou pour la liberté de l'avortement et de la contraception, et donc elle fait appel à ce MLAC pour pouvoir avorter. C'est l'occasion pour donc Blandine Lenoir, la réalisatrice, de raconter le combat de ces femmes, mais aussi des hommes, parce qu'il y a aussi des hommes dans ce combat, pour faire reconnaître ce droit avant que ne soit votée la loi Veil, et aussi de découvrir l'action de ce MLAC, action illégale certes, mais pas totalement clandestine, puisque c'est très facile, d'après le film, de contacter ce MLAC, puisque ça se passe dans l'arrière-salle d'une librairie, et que, c'est surveillé par les renseignements généraux, mais guère plus, il n'y a pas de répression contre ces femmes-là, en tous les cas. Donc c'est un film qui parle de la sollicitude, de la bienveillance, de la solidarité, de la sororité, comme on dit aujourd'hui, de ces femmes, qui viennent à l'aide d'autres vivant des situations de détresse et d'urgence à travers le portrait de cette Annie, magnifiquement interprétée par Laure Calamy, qui ne sera pas loin du César, à mon avis, tant elle est absolument magnifique et tant elle irradie dans ce film. Cette Annie, au départ, c'est une femme effacée, et petit à petit, elle va prendre confiance et elle va se révéler, prenant de plus en plus de responsabilités au MLAC. Alors même jusqu'à pratiquer elle-même des avortements avec la méthode Kerman, une méthode beaucoup moins dangereuse et douloureuse que les méthodes qu'on appelait celles des faiseuses d'anges. C'est un film qui parle d'une époque, d'un combat collectif, celui pour la liberté de l'avortement et de la contraception, à travers cette organisation militante. Ça donne un excellent film, très documenté, autant très juste, qui n'occulte d'ailleurs aucun des débats qui se posaient autour de la question, et qui se sont posés aussi d'ailleurs une fois que l'adoption de la loi Veil a été faite par les députés. C'est aussi un magnifique portrait de femme qui s'émancipe. J'ai beaucoup aimé ce film, Annie Colère, et je vous recommande chaudement d'aller le voir. C'est au cinéaste, et c'est au Pathé Quinconce. Days. Alors Days, par contre, ça c'est uniquement au cinéaste, et encore il faut y aller pas n'importe quand, parce que Days, il n'y a que des quelques jours, quelques séances. Il y en a maintenant une dimanche, une lundi, une mardi, mais autrement il n'y en avait pas. Voilà, Days, c'est un film de Tsai Ming Liang. Alors Tsai Ming Liang, c'est un réalisateur, scénariste, producteur. Né en 57, il a à son actif plein de films, je ne vais pas tous les citer. Le premier, ça s'appelait Les Rebelles du Dieu Néon, Voilà, donc il y en a d'autres, hein, mais on n'a pas trop le temps. Et puis, Days, 2h06, accablé par la maladie et les traitements, Kang erre dans les rues de Bangkok pour conjurer sa solitude. Il rencontre Non, qui, contre de l'argent, lui prodigue massage et réconfort. Arnaud Allais, Les Inrecuptibles, si Days, volontairement sorti, non sous-titré, mais essentiellement muet, bah alors si j'ai muet, il n'y a pas besoin de sous-titres, c'est sûr, hein, conserve ainsi la sensualité silencieuse du cinéaste, il y a pourtant ici quelque chose de neuf, dans un dénuement plus sidérant encore. Déjà, ça, ça ne donne pas envie. Hein. Xavier Le Harper, Lopes, amour lascive, torpeur écrasante et déconstruction du mouvement jusqu'à atteindre l'immobilisme métaphorique, tout l'art hypnotique du metteur en scène est là, dans ce film sublime d'un cinéaste majeur.
Alors Bangkok, c'est en Thaïlande, il ne faut pas faire d'erreur parce qu'il est taïwanais, je crois.
Je crois, oui.
Le réalisateur.
Exactement. Oui. Elisabeth Franck Dumas dans Libération avec ce beau tableau de la solitude contemporaine, le taïwanais, absolument, oui. Tsai Ming Liang, poursuit son éloge de la lenteur et filme le corps abîmé de son acteur fétiche. Ça doit être Li Kang Cheng, son acteur fétiche. Jacques Maurice, Télérama, l'ennui qui guette est sans cesse repoussé. L'expérience tout entière est dirigée vers le relâchement et la cure. On en ressort parfaitement détendu. Je n'ai absolument pas eu la moindre intention d'aller voir ce film, Days of Tsai Ming-Liang, mais je ne vous en empêche pas, loin de là.
Ben, j'ai déjà vu des films de lui, mais là, muet, c'est un peu spécial quand même.
Oui. Donc 2h06 en plus. Hein. Voilà, c'est au cinéaste, et donc c'est à partir de dimanche, lundi et mardi, une séance par jour. Dernier film à l'affiche, Violent Night de Tommy Virkola. Ce Violent Night, c'est un film qu'on peut voir au Méga CGR, au Pathé Quinconce et peut-être même au Colisée, je devrais vérifier ça, j'en suis pas absolument certain, mais c'est bien possible qu'on puisse le voir aussi au Colisée. Je vous dirai ça après. Violent Night, 1h52, au Pathé Quinconce, je crois bien qu'il y a une séance en VO de temps en temps. Tommy Virkola, c'est un acteur, réalisateur scénariste d'origine norvégienne, il est en 79. Il a à son actif plein de films inédits ou envoyés en VOD ou en DVD, mais il a aussi réalisé en 2013 Hansel et Gretel Witch Hunters avec Jeremy Renner et Jenna Arterton. Et 2017, c'est le film le plus célèbre de lui, Seven Sisters avec Noomi Rapace, Willem Dafoe et Glenn Close. Violent Night, 1h52, le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires entre par effraction sur la propriété d'une famille aisée qu'ils prennent en otage. Ils vont devoir affronter un adversaire auquel ils ne s'attendaient pas. Le Père Noël est dans la place et il va leur montrer que ce bon vieux Saint-Nicolas a plus d'un tour dans sa hotte. Caroline Vivier, dans 20 minutes, Tommy Virkola signe un conte de Noël à l'humour très noir, aussi réjouissant que peu conçu pour les petits-enfants. Le journal du dimanche par Stéphanie Belpech, un ovni délirant et ludique qui réjouit par sa singularité et son jusqu'au boutisme. Judith Beauvallet, l'écran large, au-delà d'une ou deux scènes de baston assez sympa, et d'un David Harbour qui prend joyeusement son pied, Violent Night rate son mélange impossible entre niaiserie familiale et série B timidement gore. Frédéric Strauss, Télérama, le cadeau bien mal emballé, jamais aussi mordante que l'humour du scénario voudrait l'être, la réalisation fait retomber le soufflet de la parodie, les scènes d'action ont vraiment la gueule de bois. Nicolas Scheller dans l'Obs, entre ultra-violence de jeux vidéo et mièvrerie contractuelle, on ne sait si le film s'adresse à des enfants psychopathes ou à des adultes décérébrés. Peu surprenant de la part du réalisation de Dead Snow où des zombies nazis faisaient du ski, plus venant de la firme Universal. Le divertissement hollywoodien ne va vraiment pas bien. Ah, j'avais pas vu Dead Snow, des zombies nazis. Enfin bon. Le Monde, Jean-François Roger. La mayonnaise ici ne prend pas. Le surnaturel avoué constitue un contresens total et une facilité proprement rédhibitoire. Ce dont avaient peut-être conscience les acteurs, tant ceux-ci semblent tenir leur rôle sans conviction. Pas vu non plus Violent Night, mais c'est possible de le voir. Donc je répète, au Méga CGR, au Pathé Quinconce, et je vais vérifier dans un instant, peut-être aussi au Colisée. Allez, avant de vous annoncer les films à l'affiche pour la semaine prochaine, je ne résiste pas, moi, malgré le titre de la chanson, à vous proposer une chanson de Sylvie Vartan. Eh oui, irrésistiblement, une chanson que l'on entend dans le film Le Lycéen, et on l'entend presque intégralement, et je ne sais pas pourquoi on entend cette chanson irrésistiblement de Sylvie Vartan. Elle n'est pas du tout dans le ton du film, mais enfin, peut-être, après tout. Je n'en sais rien, je ne connais pas les intentions de Christophe Honoré. Irrésistiblement, Sylvie Vartan, Radio Alpa, sur ce point-là, à tout moment. La semaine prochaine, eh bien, on commence par des avant-premières. Ce soir, si vous écoutez en direct au cinéaste Les 8 Montagnes à 18h30, un film sortira dans une quinzaine de jours, je crois bien. Les 8 Montagnes, c'est un film, je crois, italien. Sinon, il y aura Sword Online, Progressive Scares of Deep Night. Je ne sais pas du tout ce que je raconte. Moi, c'est un film manga. Hein. Alors ça sort samedi, je crois, et dimanche. C'est au Pathé, au Colisée, au Méga CGR. C'est toujours en VO. Voilà, donc ça, c'est très bien. Dimanche, c'est la journée du Chapeauté 2, la dernière quête. Là, alors, on a 11h15 au Méga CGR, 13h30 au Colisée et 16h au Pathé, le Chapeauté numéro 2. Sinon, le cinéma, le Méga CGR propose aussi un autre film d'animation, Le Royaume des Étoiles, en avant-première, samedi à 13h45. Et puis, là, c'est peut-être plus intéressant, l'avant-première du film Tirailleurs, en présence peut-être d'Omar Sy, je ne sais pas, au Pathé, à 20h, mardi 6. Il est peut-être prudent de réserver sa place, je ne sais pas, mais il y aura peut-être du monde pour voir Tirailleurs au Pathé à 20h. Voilà, sinon, les films dont on parlera la semaine prochaine, eh bien, on parlera du Chapeauté 2, La Dernière Quête, je ne sais pas si on ira le voir. Maestro, de Bruno Chiche, je l'ai déjà vu, avec Yvan Attal, Pierre Arditi. Ouais, bon. Les Pires, ça sera au cinéaste. Nos Frangins, ça sera au cinéaste. Les Bonnes Étoiles, d'Hirokazu Koreeda, là aussi au cinéaste. Sous les Figues, au cinéaste également. Les cinéastes, ils vont devoir agrandir, hein, ou, parce que 4 films par semaine, comme ça, c'est plus possible. Ah oui, j'ai oublié une avant-première, c'est jeudi 8 à 20h30 au Colisée, Vaincre ou Mourir, et à 19h45 au Méga CGR. C'est un film sur les guerres de Vendée, voilà. Donc ça sortira en janvier, ça. Donc, nous, cette semaine, eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé mes rendez-vous avec Léo. J'ai bien aimé également Le Torrent et beaucoup, beaucoup Annie Colère. On est un peu mitigé sur Fumer fait tousser.
Oui, mais pour l'affiche, hein, pour les acteurs et les actrices, l'affiche est énorme.
Et le lycéen, je suis un peu mitigé aussi. Oui. Voilà. Sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique. On se retrouve autour des micros. Vendredi prochain, si Dieu nous prête vie, et s'il y a de l'électricité aussi, c'est
ça,
en ligne de compte. Hein. Voilà, sur ces bonnes paroles, on vous souhaite donc une excellente semaine cinématographique.
Au revoir.
Mmh.